c'est entre autres dans un reportage d'enquête où on vient à apprendre que malgré ce qu'avait annoncé Québec, avec le recours entre autres aux cliniques privées pour les échographies, et surtout qu'on rendait ça gratuit via la RAMQ, ben, vous savez, on devait bien sûr améliorer, diminuer les listes d'attente, les délais. Semble-t-il que le problème n'est pas réglé. On dit même qu'au lieu d'améliorer l'accès, la mesure aurait fait augmenter les délais d'attente. Qu'en est-il exactement? On en parle avec la bonne personne, le président de l'Association des radiologistes du Québec, le docteur Vincent Oliva. Bonjour, docteur.
Bonjour, Monsieur Pelletier.
Comme on dit, on n'a-tu pas pris le bon remède?
On est un petit peu de cet avis-là. Effectivement, disons qu'on avait annoncé qu'on croyait pas qu'on s'en allait dans la bonne direction, puis malheureusement, ben on est allé dans cette direction-là. Puis ça a créé un engorgement. On a parlé de l'effet du bar ouvert là, en annonçant dans le fond qu'il y avait une gratuité ou une couverture publique. Puis c'est un petit peu ça qui est arrivé.
Vous avez réalisé un sondage et ce qu'on nous dit, c'est que avant l'entrée en vigueur du règlement sur la couverture publique de l'échographie, il y avait 48% des patients qui obtenaient une écho en moins de 2 semaines. Et ça aurait chuté par la suite avec l'application à 18%.
Oui, exactement, c'est ça. En fait, la couverture publique ou la gratuité, c'est un principe auquel on adhère. T'sais, évidemment, on n'est pas contre ça du tout. Ce qu'on avait dit, c'est allons-y progressivement, puis ciblons les examens pour lesquels on pense que c'est pertinent, l'activité sensible qu'on veut protéger, puis en particulier l'activité qui se fait en cabinet privé qu'on trouve qui doit être protégée en premier lieu, c'est le dépistage du cancer du sein, des échographies mammaires.
Ouais.
Donc, le problème en donnant un accès du jour au lendemain, mur à mur pour tout type d'échographie, c'est que ça ouvre la porte à de nombreuses demandes d'échographie de toutes les parties du corps qu'on n'est pas capable de gérer parce que du jour au lendemain, on n'est pas plus de radiologistes qu'on était avant le 29 décembre, puis il n'y a pas plus de technologues non plus pour réaliser ces examens-là.
Ouais.
Donc, voir que les ressources existantes n'ont pas augmenté.
Mais là, c'est quoi? C'est l'effet bar ouvert?
Oui. Il y a définitivement un effet bar ouvert. Puis là, c'est pas pour jeter la pierre aux médecins prescripteurs parce qu'eux aussi sont occupés puis ils ont plein de patients, etc. Mais on crée une attente. On leur dit, écoutez, regardez, vous allez pouvoir avoir votre échographie, ça va être accessible, etc. Alors, ils s'en prescrit plus. Ce qu'on observe dans ce sondage-là, ce qu'on observait sur le terrain puis qu'on a validé avec le sondage de Léger, c'est qu'ils s'en demandent plus. Il y a plus de demandes. Et le mot qui est à toutes les lèvres, là, si vous parlez à des gens qui travaillent dans ces cabinets-là, des radiologues, des technologues, la première chose qui vous parle, c'est la pertinence.
Ouais. Est-ce qu'on retombe pas dans le fameux surdiagnostic?
Oui, tout à fait. On est dans ça. Puis le surdiagnostic existe, est déjà existant. Puis c'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer. Ça, c'est clair et net.
Ouais.
Et cette mesure-là est un petit peu à contre-courant de ce qu'on veut faire. On veut plutôt cibler les bonnes indications, faire les bons examens aux bons patients au bon moment. Puis là, c'est de la quantité plus que de la qualité. Puis l'effet pervers, ça a été de dire regardez, venez-vous-en, puis demandez des échos. Puis il y a une pression définitive. Ouais. Puis la pression vient aussi des patients qui sont demandeurs et qui veulent se faire investiguer. Ça fait partie, ça part de là. Mais toujours est-il que c'est normalement, si on s'attaque au problème de la pertinence, puis qu'on dit, mais regardez, on va cibler les bonnes indications, ou à tout le moins, on va pas l'offrir publiquement, mur à mur, sans discernement, avant de faire une réflexion de là-dessus, puis de décider quel genre d'examen on offre.
Ouais. Permettez-moi une petite réflexion à voix haute. Est-ce que ça se peut que dans le processus d'ouvrir, entre autres, la gratuité vers les cliniques privées, ça a permis, entre autres, aux hôpitaux de libérer et de mieux paraître concernant les listes d'attente, mais ça ne règle pas le problème?
Bien, En fait, le problème est complexe. Ça c'est certain. À la base, le privé, si on veut, s'est développé comme soupape parce que il y avait une insuffisance de moyens injectés dans le réseau public. Puis ça c'est le point commun de tout ça. Et ce qu'on prône, nous, c'est un réinvestissement dans le réseau public. C'est notre réseau hospitalier qui est l'assise de notre système de santé. C'est là-dedans qu'il faut investir. Puis si on arrive à étendre les heures, à donner plus de services dans les hôpitaux, plutôt que couper des services puis se battre pour avoir des budgets d'opération, ben les listes d'attente vont diminuer, puis on n'aura pas besoin d'avoir autant recours au privé. C'est de là que part le problème.
Mais y a un aspect important quand même dans la suite des choses, parce que là, les ERM,
Ben oui.
ce qu'on appelle aussi les tomodensitomètres,
Oui.
les PAP tests, tout ça aussi sera permis au privé?
Ben, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter avec le ministre ou le ministère, malheureusement. Dans le dossier de l'échographie, ça s'est fait comme ça aussi, là. Ça a été publié dans le journal, puis imposé, puis on l'a subi plus qu'autre chose. Dans le dossier, effectivement, des tomodensitomètres, ou qu'on appelle communément des CT scans et les appareils de résonance magnétique, ben, c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants. Et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a l'équipement dans le réseau public là, pour gérer cette demande-là. C'est juste que les budgets d'opération ne sont pas au rendez-vous. Et ce serait beaucoup moins coûteux de le faire avec les équipements existants, parce que c'est de l'argent qui est déjà immobilisé. C'est des appareils qu'on a déjà payés avec nos taxes, qui sont dans les hôpitaux, qu'on a juste à opérer plus longtemps. Puis ça, nous, on dit commençons
Et
par
on
ça.
manque de personnel, docteur.
Ben oui, tout à fait. On manque de personnel, mais c'est pas en les aspirant dans le privé que ça va s'améliorer. Faut voir que le personnel, que ce soit les radiologues ou les technologues, ce sont des vases communicants. Nous, ce qu'on dit, c'est que le milieu où ça va nous coûter moins cher de traiter comme il faut nos patients, c'est dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, vous avez vu peut-être hier qu'il y a des provinces, comme par exemple en Colombie-Britannique, où il se fait jusqu'à 10 000 examens par année par appareil de résonance, alors qu'au Québec, c'est à peu près 4 500, 4 600. Ça veut dire qu'il y a de la marge de manœuvre, là.
Ah, tout à fait. Et oui, ben de la marge de manœuvre, on pourrait s'en dégager, entre autres, à Sherbrooke, parce que contrairement à d'autres endroits, on continue les examens comme la coronarographie.
Oui, l'initiative de la
Ça,
coronarographie, oui.
ouais, ben ça, on nous dit depuis quelques années, on devrait plus en faire autant et surtout pas de la façon qu'on le fait. Des hôpitaux ont arrêté de le faire, mais ça a l'air que chez nous, on continue de faire ça.
Ben écoutez, c'est pas le seul milieu qui continue à. Là, on parle de la lecture ou de l'interprétation des coronarographies par les radiologistes. C'est un dossier en fait, que le ministère sait très bien qu'on le regarde parce qu'on s'est engagé en marge des négociations qu'on a avec eux de regarder ça puis de faire le ménage dans ça. Fait que c'était déjà prévu qu'on ait une réflexion sur ça le mois qui s'en vient.
Parce qu'on a dit
Donc,
qu'on en fait 3 000 chez nous. Est-ce que ce temps qu'on consacre à ça, on pourrait faire autre chose, puis justement soutenir nos gens en ce qui a trait aux radios, aux échos, etc.?
Oui, c'est-à-dire que le temps qui est investi dans ça, il est surtout investi par les radiologistes. Et puis c'est sur ça qu'on a une réflexion, parce qu'on est assez effectivement préoccupé d'abord par la pertinence de continuer à faire ça, parce que les cardiologues sont capables de faire leur propre compte-rendu. Donc, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit très, très intensément parce qu'on veut régler ce problème-là à court terme. Effectivement, on se questionne sur la pertinence, en particulier si les lectures se font à distance
Ben oui.
de l'événement. Tu
Et à
sais, si,
plusieurs mois, c'est ça
oui,
l'affaire,
c'est
hein?
ça. Tout à fait. Ben ça c'est clair que ce soit des coronarographies ou n'importe quel autre examen radiologique, on n'endosse pas ça, on cautionne pas ce genre de façon de faire. On pense que si c'est pertinent, ça doit être fait le plus rapidement possible. Mais c'est quelque chose, qui nous préoccupe, et puis c'est certain que
Faut
qu'on
revoir ça.
Oui, tout à fait.
Docteur Vincent Oliva, merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci. Il est de l'Association des radiologistes du Québec.